Éric Bataillon.
Bonjour. Comment renforcer la participation des femmes à la vie économique dans la région euro-méditerranée? 250 experts se sont réunis voici quelques jours à Barcelone pour en débattre à l'initiative de l'Union pour la Méditerranée. Un constat, les femmes sont souvent mieux diplômées que les hommes, mais leur accès au travail est entravé par des questions sociales, culturelles, législatives ou religieuses. Nous verrons cela dans un instant. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe avec Michel Paul à Jérusalem et Alexandre Bouchard. Au Caire.
Orion Hebdo sur RFI.
Dans l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen, la participation des femmes à la vie économique connaît toujours des inégalités. Leur taux d'activité est largement inférieur à celui des hommes, 23% pour la rive sud, taux le plus bas du monde. Leurs rémunérations sont également très inférieures, à compétences égales. Et enfin, peu de femmes accèdent à des postes de décision dans les entreprises. Constat dressé récemment à Barcelone lors de la conférence de l'Union pour la Méditerranée pour une meilleure participation des femmes à la vie économique. Un constat que partage Nassira Haddad, vice-présidente du Forum des chefs d'entreprise d'Algérie.
Maintenant, il faut passer à la phase intégration socio-économique de toutes ces diplômées qui aujourd'hui arrivent sur le marché de l'emploi, arrivent dans le secteur économique avec des diplômes, avec des formations, et il va falloir pouvoir les insérer et faire de la femme un véritable moteur de croissance en Algérie.
Qu'est-ce qui coince exactement ?
Souvent, c'est l'orientation au niveau des études. Elles ont été beaucoup plus vers des disciplines transversales qui aujourd'hui ont du mal à trouver preneur sur le marché de l'emploi, alors que nous avons des déficits très importants dans beaucoup de secteurs où il y a une offre d'emploi très importante dans les disciplines techniques, dans les nouvelles technologies, dans l'économie verte. Il y a énormément d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur. Donc on doit pouvoir réorienter la formation des femmes vers des cycles plus adaptés aux exigences du marché de l'emploi, leur permettant d'acquérir très vite une capacité d'insertion dans l'espace socio-économique.
Alors en Algérie, il y a des quotas en matière de représentation des femmes en politique. Êtes-vous favorable à la même chose dans l'économie ?
Absolument. Les quotas est un mal nécessaire. Nous sommes obligés de passer par les quotas. Ça nous a réussi et ça a été une très belle avancée sur le plan de la participation des femmes dans l'espace politique. Et je reste convaincue qu'en allant vers les quotas pour l'espace économique, nous allons pouvoir améliorer non seulement la visibilité des femmes au poste de commande et surtout une insertion plus durable dans le monde de la création d'entreprises, c'est-à-dire les quotas au niveau des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, ça serait une obligation de résultat dans la gouvernance des dispositifs.
Vous parlez justement de création d'entreprise. Vous favorisez cet entrepreneuriat plutôt que le salariat ?
Toutes les analyses que j'ai eu à mener en tant qu'économiste, en tant qu'observatrice de la sphère économique en Algérie et de par le monde, c'est une donnée universelle aujourd'hui. Le salariat n'est plus une réponse à l'employabilité des jeunes et des femmes. L'entrepreneuriat est la solution, est vraiment l'axe d'effort privilégié à investir pour les femmes.
Est-ce le cas dans les zones rurales ?
Oui, et surtout en zone rurale. On a été frappé quand on a mené une étude en Algérie sur l'entrepreneuriat des femmes, de voir l'enquête de l'Office national des statistiques démontrer que plus de 43% des activités autonomes des femmes se trouvaient en zone rurale. Ça veut dire que la nature a horreur du vide. Les femmes en zone rurale, face à la faiblesse de l'offre d'emploi de l'administration et des entreprises, elles se sont redéployées vers les dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Elles ont pour beaucoup occupé les dispositifs que l'État a mis en œuvre qui accompagnent en fait la valorisation des savoir-faire locaux, des savoir-faire traditionnels, et les femmes ont investi ces dispositifs avec beaucoup de résultats.
Plusieurs initiatives en faveur de l'intégration des femmes à la vie économique ont été présentées à Barcelone. Ainsi, Esther Fouchier agit-elle dans les quartiers nord de Marseille en faveur de femmes réfugiées issues de pays du Moyen-Orient en situation de conflit.
Alors nous faisons un travail dans les quartiers nord de Marseille avec les femmes migrantes pour qu'on leur reconnaisse le droit à la dignité. C'est des femmes qui viennent d'Algérie, de Tunisie ou de Turquie. parce qu'elles sont kurdes et qu'elles ont quitté leur pays pour des raisons soit économiques, soit politiques. Et on veut qu'elles soient considérées comme des citoyennes à part entière et qu'on leur reconnaisse des droits. Et ce travail local qu'on fait aussi, parce qu'à Marseille, nous avons la drogue et nous avons les islamistes politiques et religieux. Dans ma mairie, le 13e et 14e arrondissement, c'est le Front National qui est maintenant à la tête. Et d'un autre côté, nous avons les islamistes qui encadrent les cités et qui empêchent les jeunes filles d'aller à la piscine ou de vivre leur vie. Dans ce climat un peu compliqué, difficile, surtout pour les droits des femmes, on part du local, des femmes dans les quartiers, dans les écoles, pour aller vers une mobilisation internationale des femmes. Trop de femmes sont battues, violées, excisées ou mutilées, et trop de femmes n'ont pas une reconnaissance en tant que citoyenne à part entière. Et en tant que Marseillaise, en tant que Française, je suis fière d'être ici à Barcelone parce que nous avons écrit un rapport sur la situation des femmes dans 12 pays en comparant leur place dans l'emploi, leur place dans la politique. Et on a permis à toutes les expertes ont travaillé avec des jeunes femmes pour donner le point de vue des femmes dans leur pays. Les femmes grecques, par exemple, ont insisté sur les conséquences de l'austérité imposée par l'Europe aux femmes grecques. L'absence de sécurité sociale, l'augmentation de la mortalité, les difficultés qu'elles rencontrent. Et d'un autre côté, il y a des aspects positifs. Par exemple, les femmes algériennes, elles ont maintenant 34% de femmes au Parlement, alors qu'elles n'en avaient que 5. Donc on va dans le bon sens. Mais il faut aller plus vite, il faut aller tous ensemble, et c'est le sens de notre présence ici.
Est-ce qu'il y a un dénominateur commun entre toutes ces femmes dont vous vous occupez à Marseille ?
Oui, il y a d'abord leur capacité de résistance. On sait qu'elles ont franchi des étapes difficiles pour arriver à Marseille. C'est pas toujours facile dans leur couple, c'est pas facile avec les enfants, mais elles ont au fond d'elles-mêmes une capacité de résistance et de volonté de faire reconnaître leur dignité qui est tellement forte que ça m'émeut très souvent, parce que parfois j'ai tendance à les prendre pour des victimes. Or, elles sont beaucoup plus que des victimes. Elles sont des femmes qui savent que au quotidien se construit leur vie, celle de leurs enfants et leur avenir, et qu'elles sont obligées, elles ont un droit, pas uniquement un droit, un devoir de résistance et d'action.
Ce qu'elles subissent dans leur pays, c'est toujours un rapport défavorable par rapport à l'homme, par exemple, dans tous les domaines économiques, politiques, sociaux.
Alors c'est curieux parce qu'elles ont parfois plus de place dans la famille et dans la société que ne le reconnaissent les textes. C'est la situation souvent de l'autre côté de la Méditerranée. Alors qu'en France et en Europe, on a une situation inverse. On a des textes qui prévoient l'égalité juridique des femmes, mais il y a tellement de discrimination, de violence, d'écart de salaire ou d'absence de changement de mentalité que les lois ne sont pas appliquées. Et si vous voulez, on a un double mouvement. D'un côté, il n'y a pas assez de lois pour les protéger et pour faire reconnaître leurs droits. Et de l'autre côté, on a les lois, mais les mentalités, la domination masculine est tellement forte qu'on n'arrive pas à faire appliquer ces lois. Et ensemble, femmes du Sud, femmes du Nord, nous agissons pour un avenir commun.
Orient Hebdo sur RFI.
Au bout de la chaîne, certains cherchent à développer des stratégies de promotion d'image des femmes du Moyen-Orient. C'est le cas de la chercheuse italienne Caterina Sabatini-Klesch, qui, pour le compte de l'Institut de sciences politiques de Paris, tente de fédérer des jeunes diplômés à fort potentiel qui, à leur tour, pourraient en aider et parrainer d'autres à l'avenir.
Le projet Femmes d'avenir en Méditerranée, que nous appelons FAM, donc notamment FAM 2015 pour le moment, est un projet de formation qui a été monté par Sciences Po Paris pour 22 jeunes femmes par an du pourtour de la Méditerranée, notamment de la rive sud de la Méditerranée, donc du Maroc jusqu'à la Syrie. Cette année, on a inclus aussi la Turquie. Et donc pour 22 jeunes femmes professionnelles, donc en fait des femmes qui travaillent entre 25 et 35 ans, aux profils les plus différents, donc que ce soit dans le secteur de la culture, dans les secteurs privés, que ce soit des entrepreneurs, ou que ce soit des femmes politiques, ou des activistes, etc. Pourvu qu'elles soient absolument brillantes. Donc nous, on a choisi les meilleurs CV, les CV les plus hétéroclites, celles qui avaient eu le plus d'expériences différentes, avec un intérêt pour l'égalité. Parce que justement, la formation portera autour de la thématique de l'égalité, abordée par plusieurs points de vue, point de vue politique, économique, le droit, la femme, les femmes et le leadership, ou le féminisme. Donc en fait, on a une formation sur 2 semaines autour de l'égalité, comme je vous disais, du leadership, donc en fait avec des ateliers pratiques de prise des paroles, de résolution de conflits, et ensuite un certain nombre de rencontres avec des institutions, des représentants des institutions européennes et françaises, qui puissent permettre à ces femmes justement de construire leur réseau, donc pas uniquement contre elles, mais également avec la rive nord de la Méditerranée pour que ça devienne en sorte de groupe en fait formé, sensible à l'égalité, qui soit en connexion les uns les autres, qui se mettent en connexion avec la formation et la promotion de l'année prochaine et celle de l'année d'après, etc. jusqu'au jour où en fait les rendez-vous deviendra quasiment incontournable et que toute jeune femme qui débute dans le monde du travail ou qui est disons à ses premiers pas et qui veulent effectivement s'améliorer, accéder à des responsabilités plus hautes ou bien combattre contre des inégalités dans leur propre pays, veuillent postuler pour notre formation et qui voilà, participent à nos deux semaines intenses d'égalité leadership.
Car l'idée, c'est aussi de faire du lien entre toutes ces jeunes femmes qui viennent du Liban, de Tunisie, du Maroc ou d'Égypte.
L'idée, c'est justement de construire un réseau méditerranéen de ces jeunes femmes brillantes, vous savez, remarquables, etc., pour que ce soit en connexion, pour que, par exemple, on a recruté quelques cinéastes qui avaient envie de monter un projet, mais qui ne savaient pas trop comment, où aller trouver les fonds, ou comment chercher des idées, et donc les entrepreneurs interviennent à ces moments-là. En fait, on a plein de projets, et justement, je pense que l'intérêt, c'est celui de mettre en connexion toutes ces jeunes femmes qui ne se connaissent pas, et qui savent pas trop, ou qui connaissent pas trop non plus les ruages de mécanismes, par exemple, européens, des financements de certains projets, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de construire un terrain fertile pour toutes ces jeunes leaders de demain.
Qui seront à Paris, à quelle date ?
Du 1er au 12 juin. Donc, on commence par Paris. Donc, on fait une semaine à Paris. Ensuite, la deuxième semaine, on aura des ateliers pratiques et deux jours auprès des institutions européennes. Donc, ça tombe dans la séance plénière de Strasbourg. Donc, cette année, la femme sera reçue par le Conseil d'Europe, le Parlement à Strasbourg. L'année prochaine, ce sera probablement Bruxelles.
D'autres initiatives irriguent la région. Parmi celles-ci, on peut citer les programmes d'encouragement à l'emploi en Jordanie, avec en particulier le Centre de développement de l'entreprise, qui appuie l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Et en Tunisie, la ministre chargée de la promotion des femmes et de la famille souhaite l'instauration, comme en politique, de quotas en faveur des femmes dans le monde de l'entreprise.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem, où nous attendent Alexandre Bouchanti et Michel Paul pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Foot et politique, Michel, voilà qui fait la une de vos journaux.
Oui, les Palestiniens ont trouvé la corde sensible pour les Israéliens, le football. Les quotidiens de fin de semaine sont remplis d'articles sur les relations tendues entre l'État hébreu et la Fédération internationale de football. Des articles rédigés avant qu'une décision ne soit prise. Israel Hayom, le journal proche du Likoud, le parti du Premier ministre israélien, cite Benjamin Netanyahou. Toute atteinte à Israël risque de provoquer l'effondrement de la FIFA. Le jour du jugement, titre de manière dramatique Yedioth Ahronot, qui estime que c'est le match de la saison pour la Fédération internationale. Même jeu de mots dans Ma'ariv avec ce titre en manchette, la balle est dans leur camp. Un commentateur parle de tsunami pour le football israélien. « N'ayez pas peur », proclame un chroniqueur qui augure de la décision de la Fédération internationale. « Israël ne sera jamais radié de l'organisation ».
Et par ailleurs, Michel, la presse israélienne suit de près ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. On n'est plus dans le football. Là, nous sommes en Syrie, mais aussi au Liban.
Le Hezbollah change de visage, estime Haaretz. Il y a désormais dans ses rangs des combattants palestiniens, un bataillon chrétien et aussi, souligne l'auteur de l'article, on discerne les prémices d'une lutte interne pour la succession de Nasrallah. Selon le journal, les combats qui se déroulent sur le sol syrien renforcent la tension entre l'organisation chiite et d'autres mouvements au Liban même. Haaretz cite des sources iraniennes selon lesquelles le chef du Hezbollah pourrait être privé de ses prérogatives militaires au sein de l'organisation.
Alors sur ce terrain, Alexandre, plusieurs journaux arabes estiment que les forces loyalistes à Bachar al-Assad continuent à perdre du terrain en Syrie, mais aussi que la rébellion a, elle, ses problèmes.
Oui, et parmi ces forces loyalistes, d'ailleurs, il y a le Hezbollah. En tous les cas, selon la presse, c'est la ville d'Ariha, qui était le dernier bastion loyaliste dans la province d'Idlib, au nord de la Syrie, qui est tombée entre les mains d'une coalition de groupes djihadistes, dont le Front al-Nusra. Alors, ils étaient opposés aux troupes régulières de Bachar al-Assad, mais aussi aux milices du Hezbollah libanais, et ces derniers se sont repliés vers le sud et l'ouest. Alors, selon certains experts, en fait, les djihadistes cherchent à effectuer une percée vers la mer, à l'ouest, en vue de disposer d'un contact direct avec l'extérieur, sans devoir passer par la Turquie. Mais dans ce nord qui est conquis par la rébellion, les tensions montent entre les factions non islamistes, c'est-à-dire l'armée libre syrienne et les milices kurdes. Alors une tension qui frise la confrontation armée et qui, selon les éditorialistes, affaiblirait les deux parties au profit des djihadistes.
Et vos journaux reviennent également, Alexandre, sur ce qu'ils appellent le revirement de la politique américaine au Proche-Orient.
Oui, pour Barda Dodran, dans Al-Haya, les États-Unis et l'Iran sont devenus des alliés de facto dans la guerre contre l'État islamique ou Daesh en arabe. Alors une alliance qui n'est pas seulement ponctuelle, estime l'éditorialiste. Selon elle, les pays arabes sont les laissés pour compte de la nouvelle politique américaine qui s'appuie évidemment sur son allié principal, Israël, mais aussi sur des alliés régionaux comme la Turquie et maintenant l'Iran. Alors, trois ennemis, adversaires ou concurrents du monde arabe. D'autres éditorialistes vont plus loin en affirmant que Daesh et ses progrès fulgurants en Syrie et en Irak n'ont pu s'accomplir que grâce à un laisser-faire américain. Des Américains qui, selon eux, ne semblent pas vouloir frapper Daesh quand il faut, où il faut et avec la force qu'il faut.
Michel, il est toujours beaucoup question de politique interne dans vos journaux.
Ça y est, Eric, Netanyahou a réussi à peaufiner la création de son gouvernement, ou presque. Il reste encore au moins un petit détail à régler, mais à quel prix ? Les journaux soulignent que le Premier ministre a notamment réparti les grands dossiers des affaires étrangères entre plusieurs autres ministères. Coup de colère donc chez les diplomates, et puis le fait que Benjamin Netanyahou fasse du ministère de la communication sa chasse gardée provoque de nombreux commentaires. Il envisage de mettre au pas la presse, dit-on. Netanyahou, lui, rejette ces accusations. Titre de l'éditorial de Haaretz, Netanyahou contre la liberté d'expression. Et aussi à remarquer que le président israélien Reuven Rivlin, qui entretient des rapports tendus avec le Premier ministre, arrive en tête des sondages de popularité.
Tiens, justement, une fois n'est pas coutume, Alexandre Bouchanti, vos journaux s'intéressent au nouveau gouvernement israélien et en particulier à sa ministre de la Justice.
Oui, et pour la presse arabe, c'est un gouvernement de droite pure et dure. Et pour de nombreux éditorialistes, il a le mérite au moins d'être clair. Alors, pas de fond de teint, je cite, pas de fond de teint de gauche ou de discours mensonger sur la paix. Pour la presse arabe, Ayelet Shaked, la ministre de la Justice issue du parti Foi et Juif, est la parfaite illustration de cette droitisation extrême du gouvernement israélien. Les journaux ne manquent pas de ressortir des déclarations de Shaked selon lesquelles la totalité du peuple palestinien est l'ennemi. Les journaux citent aussi un projet de loi de la ministre visant à alourdir les peines contre les responsables des jets de pierre.
Michel, la rébellion de la communauté originaire d'Éthiopie, des chiffres expliquent peut-être cette fronde.
Oui, des statistiques qui sont publiées dans Yediot Aharonot. Alors, près de la moitié des détenus juifs dans les prisons israéliennes sont d'origine éthiopienne. Et pour la plupart, il s'agit de jeunes 12 fois plus nombreux que leur proportion au sein de la population pour cette tranche d'âge. Les leaders de la communauté parlent de discrimination raciale.
Enfin, Alexandre, la presse arabe s'intéresse à la polémique qu'a provoqué le cheikh d'Al-Azhar en acceptant de recevoir Marine Le Pen, la présidente du Front National.
Le communiqué de la mosquée d'Al-Azhar justifie sa décision par, je cite, son ouverture à toutes les tendances et partis politiques. Donc, c'est la raison pour laquelle le grand imam, le cheikh Ahmed Taïb, a accepté de recevoir Marine Le Pen. Mais pour beaucoup d'oulémas de la mosquée université, qui est une des principales autorités morales de l'islam sunnite, une telle ouverture est inacceptable avec le Front National qui est, selon eux, ouvertement hostile aux Arabes et aux musulmans en France.
Pour conclure, Michel Paul, votre photo du jour.
Ce sont les photos des dirigeants de la pègre israélienne à la une toute la semaine à la suite d'un gigantesque coup de filet de la police pour tenter de juguler le crime organisé en Israël.
Photo de famille donc, sans oublier le parrain. Merci Michel, merci Alexandre. À la réalisation, François Porcheron. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur notre site www.rfi.fr ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain. Tout de suite, un nouveau journal sur RFI.